Radio Capi.
Oh, Capi.
À la présentation du journal, Pascal Masserica.
À la une de l'actualité ce soir, une centaine de maisons détruites et de nombreuses familles sans abri. C'est le bilan du débordement de la rivière Ngezi suite à la pluie diluvienne qui s'est abattue la nuit dernière jusque ce matin sur la ville de Bunia. À l'Équateur, 13 députés provinciaux sur 20 ont voté ce mardi pour la déchéance du gouverneur de province Bobo Boloko. C'était au cours d'une plénière délocalisée suite à un climat d'insécurité entretenu par des partisans du gouverneur. Notre invité, c'est le directeur provincial de la SNEL, Kasaï Central. Damas Moudipanou affirme que son entreprise a acquis 3 nouveaux groupes électrogènes pour éclairer les habitants de la ville de Kananga chaque soir. Madame, Messieurs, bonsoir à Ituri. Plus de 100 maisons ont été détruites par les eaux de la rivière Ngezi qui a débordé après la pluie diluvienne qui s'est abattue la nuit dernière et jusque ce matin sur la ville de Bunia. De nombreuses familles sont sans abri et plusieurs biens emportés, dont 2 voitures. Le trafic a été également suspendu sur le pont Lokorto qui relie la ville de Bunia à la route nationale numéro 27. Le récit d'Isaac Remoyope.
La pluie s'est abattue depuis 3 heures du matin à Bunia avec comme conséquence l'inondation de la rivière Ngezi. Plusieurs quartiers sont envahis par les eaux, notamment Bembei, Bigo, Ngezi, Bankoko, Kanyasi et Gbandai. Ces eaux ont causé plusieurs dégâts à leur passage. Selon des témoignages de certaines victimes, plus de 100 habitations ont été détruites et plusieurs effets de la maison emportés, dont 2 voitures qui étaient garées dans une parcelle. Certains occupants ont réussi à évacuer leurs biens qui traînent encore dans la cour car ils ne savent où aller pour trouver des abris. Le maire de la ville de Bunia indique que ces dégâts sont les conséquences des constructions anarchiques le long de la rivière, ce qui justifie ces drames. 3 ponts étaient également endommagés, coupant ainsi les trafics entre certains quartiers de la ville. La circulation a été aussi perturbée dans la ville de Bunia. Plusieurs véhicules transportant des marchandises à destination du territoire des Djougs ont été bloqués toute la matinée avant de reprendre timidement la route en début d'après-midi. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Politique à présent, à l'Équateur, 13 députés provinciaux sur 20 ont voté ce mardi pour la déchéance du gouverneur de province Bobo Boloko. Le vote est intervenu lors d'une séance plénière délocalisée suite à un climat d'insécurité entretenu par des partisans du gouverneur, selon le rapporteur adjoint de l'organe délibérant. Les députés provinciaux ont également voté la mise en accusation du gouverneur. Exclus de ce vote d'aujourd'hui, 7 autres députés provinciaux l'ont qualifié de fraude, d'autant plus que le gouverneur Bobo Boloko n'a pas présenté ses moyens de défense. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Au Lomami, 3 membres du bureau de l'Assemblée provinciale ont été réhabilités par la Cour constitutionnelle parmi les 5 qui avaient été déchus en décembre dernier par leurs collègues pour incompétence et mégestion. Cette décision n'est pas bien accueillie par plusieurs habitants de la ville de Cabinda, chef-lieu de la province. C'est ce que nous explique Mboujimaï Esther Ndalafina.
Il s'agit des députés provinciaux Eli Kasangana, Sozi Tokabamba et Sidonie Ejiba, respectivement rapporteurs, rapporteurs adjoints et questeurs de l'Assemblée provinciale qui font de nouveau leur entrée au perchoir de l'Assemblée provinciale en exécution de l'arrêt de la Cour constitutionnelle notifié à cet organe délibérant le 3 juillet dernier. Ils ont à cet effet été invités par le président de l'Assemblée provinciale à se présenter ce lundi au siège de l'hémicycle où une réunion s'est tenue entre les membres du bureau en exercice et ceux ayant été déchus au mois de décembre dernier. S'en est suivi la remise et reprise entre un membre du nouveau bureau présent à cette rencontre. Les 2 députés provinciaux qui étaient absents ont envoyé les clés de leur bureau. La nouvelle autour de la réhabilitation de ces 3 membres du bureau de l'Assemblée provinciale s'était répandue sur la ville de Cabinda à la veille de la déchéance du gouverneur de province Sylvain Lubamba Mayobo. C'est d'ailleurs une des raisons ayant poussé l'autorité provinciale déchue à ne n'allait pas répondre à l'invitation du bureau de l'Assemblée provinciale pour fournir ses moyens de défense contre les accusations portées à sa charge, jugeant le bureau de n'avoir pas qualité, se référant à l'arrêt de la Cour constitutionnelle réhabilitant certains membres de l'ancien bureau déchu par leurs collègues. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Et puis le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga appelle les Bakatakatanga à déposer les armes et à faire connaître leurs revendications. Gabriel Kyungwa Kumanza a lancé cet appel lors d'un point de presse animé lundi en sa résidence de Lubumbashi. Le compte-rendu de Jean Gandou.
La paix passe par la concorde et tout doit être mis en œuvre pour la consolider. Pour cela, la main est une fois de plus tendue au Bakatakatanga pour qu'ils viennent discuter avec les autorités afin de faire connaître leurs revendications. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a aussi mis en garde ceux qui mettent en avant-plan la politique des autochtones qui est en vogue ces derniers temps dans le Haut-Katanga. Pour lui, cette problématique est dangereuse pour le développement de la province. Antoine Gabriel Kyungwa Kumanza.
Maintenant, vient de se greffer un autre phénomène, et non des moindres, les autochtones. Les animateurs de cette démarche politique, ce sont des déchus locaux des élections ou ceux qui ont été évacués du gouvernement ou de toutes les autres institutions du Haut-Katanga. Maintenant, eux aussi, ils essayent d'utiliser toujours la pauvre jeunesse. Nous devons nous mobiliser pour mettre fin à ces deux phénomènes dangereux pour notre province. Notre devoir est de prêcher l'harmonie. Nous tendons la main à tous ceux qui se sentent frustrés de se mettre autour d'une table et discuter.
Notons que la paix a été au centre d'un conclave organisé la semaine passée par l'Assemblée provinciale en collaboration avec le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, la commission indépendante d'examen des allégations d'exploitation et d'abus sexuels commis lors de la riposte à la 10e épidémie du virus Ebola au Nord Kivu et en Ituri invite les personnes qui détiendraient des informations sur ces cas à se manifester au plus vite. L'appel a été lancé par la co-présidente de cette commission et défenseur des survivants des violences sexuelles dans les conflits. Julienne Lusenge a été jointe par Martial Papimukeba.
À ce moment, les enquêtes se poursuivent dans la région. Nous voulons vraiment que toute personne qui peut apporter des informations par rapport aux allégations d'abus et d'exploitation sexuelle dans la région de Beni et de l'Ituri pendant la 10e flambée de l'épidémie à virus Ebola, s'il vous plaît, contactez nos équipes d'examen sur terrain ou par téléphone, envoyez les informations pour l'intérêt supérieur des victimes. Vous pouvez envoyer un courrier électronique à info@indépendantsupport.org ou vous pouvez joindre par téléphone nos équipes d'examen à ce numéro +243 995 30 7 805.
Notez que cette commission qui avait été mise en place en octobre 2020 par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé OMS est coprésidée par l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Niger, Madame Aïchatou Mindaouda, et l'activiste congolaise Julienne Lusenge. Une cinquantaine de groupes armés locaux et étrangers opèrent dans la province du Sud Kivu. Les plus actifs sont signalés ce jour-ci dans les territoires d'Uvira et de Fizi-Itombwe. Plusieurs parmi eux n'existent plus après le décès de leur commandant, seigneur de guerre, Bédé, Simuzizi et Karakara, dans la plaine de la Ruzizi et la chiffrie de Bafouliru. À Uvira, une correspondance de Fiston Goma Mayabala.
Les groupes armés les plus virulents et actifs sont présents sur l'axe Bidjombo-Minembwe. Il s'agit notamment des groupes Gumino Turuaneo. Ce dernier est dirigé par le colonel déserteur Michel Makanika, avec un effectif estimé à quelques centaines d'hommes localisés dans le groupement Balala Nord en territoire de Fizi. Sur le même axe Bidjombo-Minembwe, l'on retrouve aussi des combattants dits Maïmaï, notamment les Maïmaï Moulumba basés à Mimbililo et les groupes Ebuela à Kipupu. Tous ces groupes sont accusés d'exactions, de pillages, de vols de bétail, de barrières illégales et de tueries dans la zone. Par ailleurs, sur l'axe Baraka, on y retrouve les groupes Yakutumba basés dans la forêt Ewabora, la forêt d'Enganja ainsi que vers Kilembwe. Bilozebi Chambouke. C'est un autre groupe localisé à Milimba dans le territoire de Fizi, alors que les groupes Kijangala et Bouyiwa sont déployés sur l'axe plein de la Ruzizi et la chefferie de Bafouliru. Au-delà des groupes armés locaux, Uvira Fizi Tombwe regorge des groupes armés étrangers. Des combattants rwandais du CNRD ex-FDLR, des rebelles burundais notamment ceux du FNL, les MRP à Barundi et les rois de Tabara. Selon nos sources, la plupart de ces groupes armés locaux d'Uvira, Fizi et Tombwe attendent le programme national d'EDRC du gouvernement annoncé en début de cette année par le chef de l'État lors de son premier passage à Goma au nord Kivu. D'Uvira Fiston Goma Mayabala, Radio Kapi.
Les défenseurs des droits de l'homme de l'Ituri et du Nord Kivu dénoncent ce qu'ils qualifient de dysfonctionnement des juridictions civiles depuis le début de l'état de siège. Le coordonnateur du réseau pour les droits de l'homme, Maître Mwindo Sivowanywa, fait état de la suspension des activités dans les juridictions civiles. Le ministre de la Justice projette une journée de réflexion sur les modalités d'application de l'état de siège dans les deux provinces. Radio Kapi, Boutembo, Sadiki Aboubakar.
Les deux ordonnances portant proclamation et application de l'état de siège dans les deux provinces font l'objet d'une ambiguïté. Lorsque l'article 3 de l'ordonnance portant proclamation de l'état de siège stipule que l'action des juridictions civiles sera substituée par celle des juridictions militaires, l'article 6 de l'ordonnance d'application dit à son tour que seule la compétence pénale des juridictions civiles est dévolue aux juridictions militaires. Résultat, toutes les juridictions civiles ne sont pas opérationnelles dans les deux provinces depuis les débuts de l'état de siège, ce qui engendre de nombreuses conséquences au sein de la communauté, indique l'ONG de défense des droits de l'homme, REDO. Son coordonnateur cite par exemple l'auditorat militaire détachement des Boutembo, dont les ressorts s'étendent sur toute l'étendue du territoire de Lubero, qu'il n'a qu'un seul magistrat. Même en temps normal, un seul magistrat ne suffirait pas, indique Maître Mouindo Asivignoua. Ces dysfonctionnements ont été évoqués par le ministre de la Justice et garde des Sceaux dans sa correspondance du lundi 5 juillet qui appelle les premiers présidents des cours d'appel de l'Ituri et Nord Kivu pour une journée de réflexion sur les modalités d'application de l'état de siège dans les deux provinces. Boutembo, Sadiki, Aboubakar, Radio Kapi.
Dans un autre chapitre, au Sud Kivu, les frais de participation à l'examen d'État sont fixés à 25 dollars américains payables en francs congolais. Ce montant est contenu dans un arrêté provincial signé samedi dernier par le gouverneur. Théo Ngwabidjekasi précise dans cet arrêté que ces frais de participation sont ceux fixés dans l'édit budgétaire 2021 voté par les députés provinciaux. Ils sont répartis en une première tranche de 15 dollars américains pour la session ordinaire et de 10 dollars américains couvrant les dépenses de fiches de dépouillement et autres. Pour en parler, retrouvons à Bukavu Cynthia Bachizina Bizana.
Le gouverneur de la province du Sud Kivu a donc décidé de couper la poire en deux en fixant ses frais à 25 dollars américains. En effet, cet arrêté était très attendu. Il vient mettre fin à un bras de fer qui opposait le corps des inspecteurs et les députés provinciaux. Ces derniers étaient très catégoriques. Aucun parent ne devait payer plus de 15 dollars américains, alors que le syndicat des inspecteurs menaçait de boycotter l'organisation de l'examen d'État si ses frais n'étaient pas fixés à 40 dollars. En outre, ce même arrêté fixe à 10 dollars américains, payables également en francs congolais, les frais de participation à l'examen de fin d'études primaires ENAFEP. Mais seuls les élèves des écoles privées sont tenus de s'acquitter de ce montant. Enfin, l'arrêté signé par le gouverneur de province prévoit des poursuites judiciaires et administratives à l'endroit de tout agent de l'État qui tenterait d'enfreindre au bon déroulement de l'examen d'État ou de l'ENAFEP. Rappelons que l'épreuve de dissertation de l'examen d'État 2021 doit se tenir le 12 juillet prochain selon le calendrier scolaire en cours. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Tête à tête hier lundi soir à l'Élysée entre le président du Conseil militaire tchadien de transition Mahamat Idriss Déby et le président français Emmanuel Macron, au menu des questions internes au Tchad et la sécurité dans le Sahel. En Djamena, la capitale, cette visite officielle est qualifiée d'une grande réussite. En Afrique du Sud, Jacob Zuma, l'ancien président de la République, condamné la semaine dernière à 15 mois de prison ferme pour outrage à la justice, refuse de se rendre à la police. Il devait théoriquement se constituer prisonnier avant dimanche dernier, mais il fait appel du verdict de la Cour constitutionnelle et qui doit examiner sa requête lundi prochain.
L'invité.
Notre invité, c'est le directeur provincial de la SNEL, la Société Nationale d'Électricité au Kassai Central. Damas Moudipanou affirme que son entreprise a acquis 3 nouveaux groupes électrogènes pour desservir chaque soir les habitants de Kananga. Il rassure que ces matériels sont en train d'être évacués ou évalués pour augmenter la production par rapport au nombre d'heures et réduire le système de délestage. Il s'entretient avec François Kadima.
Monsieur Moudipanou, bonjour.
Bonjour, monsieur les journalistes.
Il est observé depuis quelques jours qu'il y a de l'énergie électrique chaque soir sur Kananga. C'est un courant fourni par de nouveaux groupes électrogènes ou générateurs, ou qu'est-ce qui se passe réellement?
Le mois passé, on vous avait parlé de l'acquisition des 3 nouvelles machines ou 3 groupes électrogènes qui devraient desservir la ville de Kananga. Ça nous a pris le temps que ça nous a pris. C'était quand même pour les installer. Et maintenant, là, nous sommes à la fin des travaux, nous avons commencé à procéder par des essais. Il y a même des experts qui sont venus de Kinshasa, qui sont venus aussi pour les contrôles de ce qui a été réalisé. C'est ainsi que ces derniers temps, vous voyez le soir, il y a du courant de 19h à 23h. Et ce courant-là provient effectivement de ces 3 nouvelles machines. Et entre-temps, nous là, avec les techniciens qui sont venus de Kinshasa ainsi que ceux de Sogeac, nous sommes en train de contrôler les paramètres techniques de ces machines-là.
Qu'est-ce qui va changer dans la production du courant? Parce que nous voyons cette fourniture le soir.
Ça va augmenter la production ou la capacité de notre centrale. Au moment où je vous parle, avec ces nouvelles machines, nous avons augmenté la capacité de notre centrale qui est passée de 0,74 MW qu'on avait. Aujourd'hui, là, nous sommes à 2,65 environ. Donc, vous comprenez que nous avons augmenté la capacité. Et nous pensons que le système de délestage qu'on faisait hier pourra sensiblement être réduit.
Le problème, ces générateurs, c'est qu'ils doivent être alimentés par du carburant. Comment la SNEL va procéder par rapport à la rupture cette fois-ci?
Rupture, ça, je ne sais pas. Il y a des ruptures volontaires, il y a des ruptures involontaires. En ce qui concerne le temps de fonctionnement, nous aurons à augmenter le temps, puisque les nouvelles machines que nous venons d'acquérir ont une capacité de consommation faible par rapport aux premières que nous avons. Donc, sûrement que nous allons augmenter le nombre d'heures de fonctionnement et je pense que la population ou nos clients seront bien servis.
La SNEL a toujours des difficultés. Quand je parle du carburant, c'est les gens ne doivent pas consommer ce courant gratuitement. Alors, comment vous allez faire pour essayer de garder la fourniture régulière? Alors, comment ça va se passer?
C'est un problème. C'est un problème puisque tout le monde n'a pas la même mentalité. Il y en a même qui fraudent le courant. Et nous pensons que la population ou les clients qui bénéficient de l'énergie, nous les sensibilisons. En payant l'énergie, ils nous donnent les moyens de manière à ce que nous puissions nous approvisionner aussi en produits pétroliers et faire tourner régulièrement ces machines. S'ils nous privent ou s'ils ne payent pas les factures, ça nous crée un peu de problèmes puisque en ce moment-là, nous ne serons pas capables d'acheter les produits pétroliers et de les alimenter régulièrement. Donc, nous invitons nos clients à ce qu'ils puissent vraiment s'acquitter de leur devoir qui est de celui de payer la facture SNEL qui pourrait arriver dans leur maison.
Alors, avec quel carburant vous fournissez du courant actuellement?
Bon, pour l'instant, c'est notre direction générale qui nous prend en charge et qui nous approvisionne en produits pétroliers. Mais jusque-là, nous sommes dans la période d'essai. Donc, vous pouvez remarquer que demain, il n'y a pas d'électricité. C'est que nous sommes en train de régler certaines choses qui n'ont pas été bien réglées. Et qu'après essai, nous avons constaté qu'il y a tel qui manque ou tel qui n'a pas été bien fait. Et nous invitons simplement la population à la patience. Les machines sont déjà opérationnelles, mais nous sommes en train de régler certaines choses qui peuvent ou ne pas être bien faites.
Monsieur Moudipanou, nous vous disons merci.
Merci, monsieur le journaliste.
C'était l'invité de Radio Capi, le directeur provincial de la Société Nationale d'Électricité SNEL, Kassai Central. Damas Moudipanou affirme que son entreprise a acquis 3 nouveaux groupes électrogènes pour alimenter en électricité les soirs tous les habitants de la ville de Kananga, chef-lieu de la province. Il était interviewé par François Kadima. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Capi. Merci infiniment de l'avoir écouté. Merci à Noël Alouzitoukaba, Alain Rungmouchige et Pelle Kipelamondo qui m'ont accompagné. Retrouvez ce journal sur www.radiocapi.net et sur toutes les plateformes numériques de Radio Capi.